pour s'intéresser à la question du décrochage des élèves, il faudrait certes comprendre les problèmes des élèves, mais pour pouvoir traiter les problèmes des élèves, c'est compliqué si on ne s'intéresse pas aux problèmes de travail des professionnels. Donc voilà, pour nous, cette question du décrochage, il faut arriver à traiter vraiment les deux choses. Comprendre ce qui se passe avec les élèves, c'est une chose, mais comprendre pourquoi c'est compliqué pour les professionnels de s'y intéresser et de soutenir les élèves en situation ou en cours de décrochage, c'est fondamental. Et du coup, la question, elle est aussi renvoyée à comment l'institution soutient le travail des professionnels de terrain dans les établissements pour s'emparer de cette question. Et avec des entrées qui ne sont pas forcément la question du décrochage scolaire. Peut-être que si on veut accrocher les enseignants, entre guillemets, sur ce problème du décrochage, peut-être qu'on va leur proposer d'abord de travailler sur leurs problèmes à eux, c'est-à-dire gérer les élèves perturbateurs, arriver à faire classe avec des élèves qui sont dans qui ont des compétences dans leur discipline très hétérogènes, comment arriver à faire avec tout ça. Et peut-être que si on s'intéresse et qu'on soutient les enseignants d'abord sur leurs problèmes à eux pour faire classe à tous et pour faire apprendre à tous, on amènera assez rapidement la question sur éviter que certains élèves décrochent.
C'est l'idée que le décrochage se construit, se révèle finalement au lycée, mais se construit bien en amont, et ce, dès la maternelle. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de processus, à commencer par la question des normes scolaires, ce qu'on appelle le processus de différenciation passive, c'est-à-dire que finalement, à l'école, il y a le faire, et il y a le comprendre. Après le faire, il y a le comprendre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a réussi à faire un exercice, une activité, qu'on va comprendre quels sont les savoirs sous-jacents qui sont en jeu de manière implicite. Et donc il y a un travail d'accompagnement qui est à faire à ce niveau-là, et qui n'est pas toujours fait, et que les enfants, notamment les enfants des enseignants, savent très très bien faire, parce que c'est des choses qui se jouent et qui se rejouent au quotidien dans la famille, parce que ça fait partie des normes familiales. Je prends un exemple tout bête, mais très souvent à la maison, on va réfléchir dans les familles d'enseignants, on va dire, pour caricaturer un petit peu, on va s'intéresser aux stratégies pour réussir à faire quelque chose, et c'est la stratégie qui va être extrêmement intéressante. Il y a des études qui montrent que dans les familles plus populaires, la famille va davantage s'intéresser à la réussite et à la réussite immédiate de l'activité. Donc on voit bien que là se jouent des différences qui sont de l'ordre effectivement du faire et du comprendre qui suit le faire.
Et ça, c'est peut-être un malentendu quand même fondamental sur la notion de travail.
Oui.
On pense tous que c'est évident pour tous les élèves que travailler à l'école, c'est non seulement faire les exercices, mais aussi travailler intellectuellement. Alors que pour la majorité des élèves qui sont issus des milieux populaires, la notion de travail, c'est d'abord le faire. Et si on s'attaque pas à cette question, sur ce malentendu fondamental, et qu'on continue à longueur de bulletin sur le manque de travail qui expliquerait la non-réussite au contrôle, etc., on continue à entretenir tout au long de la scolarité ce malentendu. Donc la question, c'est pas un manque de travail, mais c'est à quelles conditions on peut apprendre aux élèves à faire un travail qui est productif intellectuellement.
Et voilà. Là, on pose la question du travail personnel quand... j'en viens à la question d'un autre malentendu qui est ce qu'on appelle les malentendus socio-cognitifs. Pareil, je vais prendre un exemple pour expliquer ce que c'est. Alors on va se placer en classe de 6e avec un élève qui s'appelle Amidou. C'est Stéphane Bonnery qui a développé cet exemple-là. Amidou qui travaille en cours de géographie avec son enseignant sur une carte de géographie sur les reliefs en France. Et donc il y a tout un travail qui est fait sur le lien entre la légende et la carte. Et donc Amidou colorie sa carte et il pose énormément de questions à la maîtresse. Donc question maîtresse, enfin madame puisqu'on est au collège, est-ce qu'ici je colorie en marron? Et donc l'enseignante de manière systématique répond correctement à Amidou en lui disant oui là tu colories en marron parce qu'on est sur un massif montagneux, qu'il n'y a pas d'arbres, on est à une certaine altitude, etc. Mais Amidou lui il entend oui. et il s'applique bien dans son coloriage. Et puis, deux minutes après, il repose la question à la maîtresse. Maîtresse, est-ce que là, on colorie bien en vert foncé? Oui, parce que là, on est dans une forêt, c'est dense, etc. Amidou, il entend oui. Et il colorie. Et à la fin, il a une très belle carte. La maîtresse le félicite. C'est très bien, Amidou, tu as une très belle carte. Et puis, le soir, à la fin de la séance, l'enseignante dit « Demain, il y a une évaluation sur cette carte. Apprenez bien votre carte. » Et Amidou, le soir, il travaille au centre social et il apprend par cœur sa carte. C'est-à-dire qu'on est dans cette idée que pour Amidou, apprendre, c'est tout ou c'est rien. Et Amidou, il apprend par cœur sa carte. Et quand il arrive le lendemain au moment de l'évaluation, eh ben, la carte, c'est pas la même.
C'est une carte d'Italie.
Ce qu'on comprend bien, nous. Puisque l'enjeu d'apprentissage, c'était le lien entre la légende et la carte. D'accord ? Pour Amidou, il a appris par cœur la carte. Et quand le chercheur demande à Amidou, est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas su faire ? Donc l'élève répond, bah, parce que l'enseignant t'a dit que c'était faux. Donc première chose, l'élève n'est pas capable de s'auto-évaluer, de comprendre ce qui dans son raisonnement fait que c'est faux. Et quand le chercheur lui pose la question de dire, pourquoi il y en a qui ont su faire ? Il répond, peut-être que la maîtresse était raciste.
Et qu'elle leur a donné la bonne carte.
Et qu'à eux, elle a donné la carte qu'elle allait donner. D'accord ? Donc on voit bien comme ça, comment est-ce que de cette façon-là, va se construire à la fois de l'incompréhension, du ressentiment, du sentiment d'injustice. D'accord ? On est là sur des malentendus entre le faire et le comprendre. Et puis, un dernier processus, qui est le processus de différenciation active, donc où là encore on est sur des différenciations différenciatrices. Je vais prendre là aussi un exemple, alors en maternelle, un enseignant qui fait un élevage d'escargots, on est en grande section dans la classe, et qui donc fait travailler les élèves autour de l'escargot. Et puis il propose aux élèves de prendre une feuille blanche et dit bah, aujourd'hui on va apprendre à écrire le mot escargot. Les élèves ont un petit répertoire avec les lettres et il y a une petite fille qui vient voir l'enseignant et qui lui dit maître, est-ce que tu peux m'aider, j'arrive pas à écrire le mot escargot. Et l'enseignant bienveillant lui dit oui, pas de problème, j'arrive, je vais t'aider, tu vas voir, on va y arriver.
Donc, en début de grande section, aucun des élèves est évidemment capable d'écrire le mot escargot.
Donc le maître lui demande, escargot, tu sais par quelle lettre ça commence ? La petite fille dit non, il lui dit, bah tu vois, escargot, ça commence par E, il va jusqu'à la lettre E sur le répertoire, il ouvre, il lui dit, est-ce que tu sais lire le mot escargot ? La petite fille regarde, il y a deux mots qui sont écrits, elle reconnaît le mot Esteban, qui est un prénom d'un camarade de classe, et il lui dit, bah tu vois, l'autre mot, c'est donc escargot. Et il lui dit, dicte-moi le mot escargot, je vais l'écrire. Et puis, deux minutes après, hein, on est vraiment sur la même séance, deux minutes après, un petit garçon arrive et dit « Maître, j'y arrive pas ». Et pareil, l'enseignant lui dit « T'inquiète pas, je vais t'aider, on va y arriver ensemble ». Il prend le répertoire, il lui dit « Escargot, tu sais par quelle lettre ça commence ?» Le petit garçon dit non, il lui dit « Bah tu vois, escargot, ça commence par un E ». Il ouvre le répertoire, « Est-ce que tu reconnais le mot escargot ?» Non, le petit garçon ne reconnaît pas le mot escargot. Par contre, il reconnaît le mot Esteban. Donc on est vraiment sur deux situations qui sont les mêmes. Et là, l'enseignant lui dit, bah, tu vois, le deuxième mot, c'est escargot. Regarde bien comment je fais. Et l'enseignant écrit le mot escargot. C'est-à-dire que là, ça paraît complètement anodin. À deux minutes d'intervalle, les deux élèves n'ont pas été soumis aux mêmes apprentissages. Alors peut-être je développe ce qui peut se jouer en termes d'apprentissage pour la petite fille et ce qui ne va pas se jouer pour le petit garçon. Pour la petite fille, quand elle épelle les lettres, on est sur une situation d'énumération. C'est-à-dire que la petite fille, d'abord, il va falloir qu'elle lise de la gauche vers la droite. C'est-à-dire qu'en faisant ça, elle travaille le fait que la lecture en France, c'est de la gauche vers la droite. Ce qui n'est pas le cas au niveau de toutes les écritures. Ensuite, elle va dicter les lettres, toutes les lettres, sans en oublier, dans le bon ordre, sans en dire certaines deux fois. D'accord ? Donc on est là sur de l'énumération, qui est une micro-compétence de littératie qui est extrêmement importante pour la construction des savoirs scolaires dans toutes les disciplines et qui est très très rarement enseignée à part en mathématiques. Ensuite, elle va réciter les lettres de l'alphabet, donc travailler la mémorisation des lettres de l'alphabet. Le petit garçon, lui, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Juste, il regarde. Voilà. Or, ce genre de situation, deux chercheuses, Claire Margolinas et Marceline Lapara, ont repéré que ces situations où un élève est mis en apprentissage et pas l'autre,
dans la même tâche,
se répètent à longueur d'heure, à longueur de séance, à longueur d'année,
quel que soit le
à longueur de scolarité, quel que soit l'enseignant. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes élèves qui sont moins soumis aux apprentissages que les autres. Et elles vont très loin, puisqu'elles disent que y a un certain nombre d'élèves qui sont en difficulté à cause de ces processus de construction des inégalités scolaires.
Et c'est toujours les mêmes élèves. Pourquoi? Et là, la réponse des chercheuses, c'est de dire, c'est simplement par bienveillance, les enseignants vont mobiliser ce qu'ils pensent des élèves. Donc un certain nombre de préjugés, de stéréotypes sur cet élève est dans une famille monoparentale, cet élève la famille ne parle pas français, cet élève la famille est en situation de précarité, cet élève est en forme du voyage. Et du coup, dans le souci bienveillant de ne pas le mettre en difficulté, je ne vais pas l'exposer à un certain nombre d'apprentissages parce que je ne voudrais pas le mettre en difficulté, je ne voudrais pas le renvoyer qu'il n'y arrive pas. Et on voit bien comment, petit à petit, tout au long de la scolarité, donc pour ces mêmes élèves, se construit petit à petit de la difficulté scolaire, des lacunes, des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, des choses qu'ils n'ont pas compris. Et c'est ces mêmes élèves qui, au moment où ils vont arriver au collège, où il n'y a plus l'étayage affectif d'un seul enseignant pour toute la classe, toute la journée, et où je connais bien mes élèves, ça se passe bien, et où globalement les choses se passent bien, en sixième, quand j'arrive avec... une tonne de professeurs qui ont 55 minutes de cours, qui voient les classes défiler et qui n'ont pas le temps de se soucier de mes difficultés à moi, et ben ce sont ces élèves qui vont très rapidement, en début de 6e, manifester du rejet scolaire, du retrait. Il y a différentes manifestations de ces processus de décrochage. Et qui sont ces élèves qui vont, pour le coup, se retrouver en réelle situation d'être décrochés très rapidement, notamment après les processus d'orientation, après la 3e.
C'est-à-dire que finalement, ces situations de forte dépendance, dépendance affective, dépendance cognitive au niveau du maître, peuvent tiennent finalement dans le premier degré parce que l'enseignant est tout le temps avec l'élève, et puis c'est quelque chose qui ne tient plus au collège et qui explique en partie cette rupture qui est si difficile, hein, puisqu'aujourd'hui, on sait que justement le cycle 3 a été créé par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'élèves, qui se retrouvent en très grande difficulté entre le CM2 et la 6e.
Et on se retrouve en plus avec cette problématique de l'évaluation, qui devient très forte à partir du collège et de plus en plus forte au fur et à mesure qu'ils vont avancer jusqu'au lycée, où en fait l'évaluation ne vient plus que sanctionner, que réifier en fait les différences entre les élèves, sans que ça permette toujours aux enseignants de comprendre ce que les élèves n'ont pas compris pour pouvoir retravailler dessus. Et donc, du coup, ça fait partie des pistes peut-être de travail, mais penser une évaluation qui permette non pas de classer des élèves, de montrer ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, mais une évaluation comme une prise d'information pour l'enseignant au service de la compréhension des difficultés que rencontrent les élèves pour pouvoir travailler sur ces difficultés et étayer les élèves pour pouvoir franchir les obstacles qu'ils rencontrent dans l'apprentissage, voilà peut-être un des enjeux d'une transformation des modes d'évaluation.
Et peut-être aussi cette idée que finalement l'évaluation, c'est une question que... L'évaluation fait partie du prescrit et on se pose assez rarement la question de à quoi va nous servir cette évaluation et à qui est-ce qu'elle s'adresse. Et on peut imaginer différents adressages. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une évaluation qui s'adresserait aux élèves, c'est-à-dire une évaluation où on évaluerait en début d'apprentissage et puis on évaluerait avec la même évaluation en fin d'apprentissage pour que les élèves puissent voir le chemin qu'ils ont parcouru et prendre conscience de ce qu'ils ne savaient pas faire avant et qu'ils savent faire maintenant. On peut imaginer une évaluation au service de l'enseignant, c'est-à-dire l'enseignant va prendre des informations sur ce que savent les élèves et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent de façon à construire son enseignement par rapport à ces informations-là. On peut aussi imaginer une évaluation au service des parents, c'est-à-dire expliquer aux familles ce que les élèves, ce que leurs enfants savent faire et les progrès qu'ils ont réalisés sur un temps donné. Et puis on peut aussi imaginer une évaluation au service de l'institution, c'est-à-dire une évaluation qui va permettre à l'institution de prendre un certain nombre de renseignements, soit sur des cohortes d'élèves, soit sur des classes données à un moment donné dans un établissement, comparaison de classes, soit pour comparer les élèves entre eux. Et le constat qu'on fait, c'est que très souvent, les évaluations, c'est un peu tout ça en même temps.
Voire même, il y a un cinquième type d'évaluation qui est l'évaluation certificative.
Oui.
Hein, qui est donc le modèle du baccalauréat, le modèle du... Enfin voilà, il y a des épreuves à passer pour avoir une certification. Et la difficulté qu'on a, c'est que c'est cette évaluation certificative, c'est celle qui, en fait, organise toutes les évaluations avant. On pense toutes les évaluations avant comme si c'est des évaluations certificatives, comme s'il fallait préparer les élèves tout de suite aux évaluations certificatives. Mais ce faisant, en fait, ben, on ne fait que trier et hiérarchiser les élèves entre eux sans aider ceux qui ont des difficultés à apprendre ce qu'ils ont à apprendre.
Et on génère... Anne-Armand, en fait, a coécrit un rapport qui s'intitulait « Agir contre le décrochage, alliance éducative et approche pédagogique repensée ». Ça, c'était donc en juin 2013. Et donc le groupe de travail qui a collaboré avec elle a montré finalement qu'il y avait quatre déliaisons avérées quand un jeune décrochait. Et je pense que c'est extrêmement intéressant d'aller regarder de près quelles sont ces quatre déliaisons parce que ça donne un certain nombre de pistes de travail. La première déliaison forte, c'est la déliaison d'avec l'institution, mais même plus généralement d'avec les institutions. Et ça peut commencer très tôt. Elle montre par exemple que un enseignant, pour enrôler sa classe, va facilement dire « Oh ben aujourd'hui on va faire quelque chose, vous allez voir, ça va être super ». Et puis finalement l'élève pour lequel ben c'est pas si super que ça, il va se dire ben, « Peut-être qu'en fait l'école elle s'adresse pas vraiment à moi quoi ». Et on se retrouve comme ça avec des jeunes qui, lorsqu'ils ont décroché, n'arrivent même plus à aller à la mission locale, n'arrivent même plus à être présents à un rendez-vous qui est fixé à un moment donné, parce que c'est quelque chose qui est trop difficile pour eux. C'est-à-dire que la symbolique des institutions n'est plus supportable pour eux. La déliaison d'avec l'adulte aussi, alors ça c'est quelque chose qu'on connaît peut-être un petit peu mieux effectivement, on sait que notamment au moment de l'adolescence se joue un certain nombre de choses au niveau de la psychologie de l'adolescent qui fait que les adolescents peuvent être assez facilement en rejet d'avec les adultes et ça se joue aussi bien avec les adultes dans les établissements qu'avec les adultes à la maison. Là, se joue vraiment un rejet qui peut être important. La déliaison d'avec le groupe de pairs également, ça c'est quelque chose qu'on mesure mal. C'est-à-dire que le jeune, quand il a décroché, il n'a plus du tout le même rythme que ses camarades qui, eux, restent à l'école. C'est-à-dire que finalement, il est amené à s'isoler complètement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux. Donc, on a un certain nombre de témoignages par rapport à ça. Et en fait, l'institution, à son insu, contribue à cette déliaison d'avec le groupe de pairs, par exemple quand elle fait redoubler un jeune, par exemple quand elle fait des groupes de travail homogènes ou hétérogènes, par exemple quand elle explose une classe parce que cette classe finalement on n'arrivait plus, l'équipe enseignante n'arrivait plus à travailler avec cette classe. On voit bien que derrière tout ça il y a des raisons tout à fait légitimes de la part des professionnels de construire cette déliaison finalement. Hein. Donc on est là dans une tension très forte pour les professionnels, mais en sachant que voilà, pour certains jeunes plus fragilisés qui sont en train de quitter l'école, eh ben, le groupe de pairs a une réelle importance et quelquefois ça peut être le groupe de pairs qui va permettre à un jeune de rester dans l'école. Voilà. Et quelquefois non. Et puis la déliaison d'avec soi-même, et je pense que celle-ci, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que finalement, l'élève qui se retrouve en échec avec l'école se retrouve pris entre deux feux. C'est-à-dire que ce jeune, il sait qu'il y a des lieux dans lesquels il est reconnu, il y a des endroits où il sait faire un certain nombre de choses, et il est reconnu pour ces choses qu'il sait faire. Et puis à l'école, systématiquement, par les évaluations, par les difficultés relationnelles qu'il peut avoir avec les adultes de l'établissement, eh bien, il n'est plus reconnu pour ce qu'il est. Et à un moment donné, ben, il va ne plus se reconnaître lui-même et puis faire le choix de quitter l'école, ce lieu dans lequel il n'est plus reconnu pour quoi que ce soit. Voilà, donc je pense que ces quatre déliaisons, elles sont extrêmement importantes et elles conduisent à un certain nombre de points de vigilance. D'abord, elles montrent bien qu'il faut un travail collectif au niveau de la communauté éducative pour prendre en charge ces situations-là. Il est extrêmement important d'écouter ce que l'élève a à dire aussi, parce que l'élève a toujours des choses à dire sur ce qu'il est en train de vivre et la façon dont il est en train de le vivre, et que c'est ce qu'il a à dire, on ne le perçoit pas forcément, quand la relation est conflictuelle notamment. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on soit vigilant à nos postures et à nos paroles. Parce qu'on voit bien comment des paroles anodines, hein, comme aujourd'hui on va faire un truc super, finalement, c'est une façon d'enrôler les élèves. Et puis on va enrôler la plupart des élèves, puis il y en a peut-être un ou deux à la marge qu'on ne va pas enrôler, et voir qu'on va mettre en difficulté avec ces mots-là. Donc c'est extrêmement important aussi d'aller se regarder en train de travailler, d'aller regarder quelles sont nos postures par rapport notamment à ces élèves qu'on sent les plus fragiles. Voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis le dialogue avec les familles. C'est un dialogue, c'est une relation, la relation avec les familles, c'est une relation qui est asymétrique, mais qui nécessite de se faire à parité d'estime. Parce que à parité d'estime et sans jugement inconditionnel, de manière inconditionnelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le parent est un éducateur et à aucun moment, en tant que professionnel, on ne peut se permettre de remettre en cause la capacité à éduquer son enfant du parent. En revanche, en tant que professionnel, on a à construire cette relation et à faire en sorte que cette relation soit une relation utile pour le jeune. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Et je pense que c'est également quelque chose qui est extrêmement important. Et par rapport à ça, le jugement inconditionnel, l'asymétrie reconnue et assumée. Je pense que voilà, on est déjà là sur deux éléments qui me semblent extrêmement importants pour construire la relation école-famille.
Et peut-être qu'on peut terminer là-dessus, c'est-à-dire que si on veut avancer sur ces questions, ça ne se fera pas chaque enseignant tout seul dans son coin. Et c'est bien, du coup, que le rôle de l'institution, comment l'institution peut s'organiser pour soutenir le travail collectif des enseignants et des autres professionnels dans un établissement scolaire, quels espaces de travail, quels espaces de réflexion, comment un conseil d'enseignement, c'est aussi un endroit où on se pose les questions de qu'est-ce qui est difficile pour les élèves dans ma discipline, quels sont les outils, les méthodes que j'ai à clarifier avec les élèves pour que tous y arrivent un petit peu mieux, comment collaborer entre CPE, assistante sociale, chef d'établissement et enseignant, prof principal sur les difficultés de certains élèves et le sentiment qu'on a sur certains élèves qui sont en train de décrocher, sur comment on peut s'organiser pour travailler. Tout ça, ça demande des espaces, ça demande des lieux qui soient organisés, qui soient outillés et qui soient soutenus, y compris en termes d'accompagnement formatif par l'institution. Et c'est bien tout l'enjeu actuel de lutte contre le décrochage qui demanderait d'avancer dans ce sens-là.